Chapitre 16. Lorsque la femme de chambre l'eut déshabillée, elle s'assit pour penser à sa déplorable aventure. C'était en effet une triste affaire. Des projets si bien conçus et si misérablement renversés. Quel coup pour Henriette! Rien ne la chagrinait davantage. Chaque partie de cette malheureuse transaction lui causait des peines et de l'humiliation, mais ce n'était rien en comparaison des maux qu'Henriette allait souffrir. Et elle se serait condamnée elle-même volontiers à beaucoup plus de mortification, pourvu qu'elle seule sentît les mauvais effets des erreurs dont elle s'était rendue coupable. « Si je n'avais pas persuadé Henriette d'aimer cet homme-là, je me serais soumise à tout de bonne grâce. J'aurais vu sa présomption sans me plaindre. Mais la pauvre Henriette, comment pouvait-elle s'être trompée aussi grossièrement ? Il a protesté qu'il n'avait jamais pensé à Henriette, jamais !» Elle essaya de regarder en arrière, mais elle ne vit que confusion. Sa conduite, néanmoins, devait avoir eu quelque chose de chancelant, de douteux. Autrement, elle n'aurait pu s'y méprendre. Le portrait. Quel empressement il avait montré au sujet du portrait. Et la charade, et cent autres circonstances. N'était-il pas clair que tout cela s'adressait à Henriette ? À la vérité, la charade, avec son esprit pénétrant, mais ensuite ses 12 yeux. De fait, ses expressions n'appartenaient ni à l'une ni à l'autre. C'était une macédoine sans goût et mal assaisonnée. Qui aurait pu deviner quelque chose à une production aussi sotte ? Elle avait, il est vrai, remarqué, surtout depuis quelque temps, qu'il affectait envers elle une galanterie hors de saison. Mais elle attribuait cela à ses manières, à une erreur de jugement, à son défaut de connaissance, à son manque de goût, et comme une preuve qu'il n'avait pas toujours fréquenté la bonne société. Malgré ses manières doucereuses, il manquait souvent d'élégance. Mais jusqu'à ce jour, elle n'avait jamais soupçonné qu'il eût d'autre intention que celle de lui témoigner de la reconnaissance et du respect comme ami d'Henriette. C'était à M. Jean Knightley qu'elle devait la première idée du contraire. La pénétration des deux frères était indubitable. Elle se souvenait de ce que M. Knightley lui avait dit au sujet de M. Elton, ses avis, la certitude que M. Elton ne contracterait pas un mariage imprudent. Tout cela lui fournissait une preuve que son caractère lui était mieux connu qu'à elle. Cette idée la fit rougir. Quelle mortification ! Mais M. Elton approuvait à plusieurs égards le contraire de ce que je croyais. Orgueilleux, s'en faisant accroire, impérieux, ayant de grandes prétentions et comptant pour rien les sensations d'autrui. Contradictoirement au cours naturel des choses, en voulant faire la cour à Emma, M. Elton perdit beaucoup dans son esprit. Ses propositions et ses offres lui furent inutiles. Elle dédaignait son attachement et se croyait insultée par l'espoir qu'il avait conçu. Il désirait se bien marier, et ayant l'arrogance de jeter les yeux sur elle, il se prétendit amoureux. Mais elle était sûre qu'il prendrait son mal en patience. Elle n'avait remarqué aucune preuve d'affection dans son langage ni dans ses manières. Il avait soupiré, il s'était servi de belles paroles, mais, selon elle, ce n'était pas ainsi que s'exprimait le véritable amour. Il était inutile de s'apitoyer sur lui. Sa seule ambition le portait à s'élever dans le monde et à s'enrichir. Et si Mademoiselle Woodhouse Darfield, héritière de 720 000 francs, ne pouvait pas s'obtenir aussi aisément qu'il avait espéré, il essaierait bientôt de faire la cour à n'importe quelle demoiselle qui n'aurait que 4 ou même 200 000 francs de dot. Mais de l'entendre parler d'encouragement, prétendre qu'elle ait eu connaissance de ses vues, qu'elle les ait favorisées, songeant enfin à l'épouser, de se supposer son égal en esprit et en essence, mépriser son ami, connaissant si bien la gradation des rangs au-dessus de lui, assez aveugle pour ne pas voir ceux qui sont au-dessus, pour penser qu'il pouvait, sans être taxé de présomption, lui faire la cour, c'est ce qu'elle ne pouvait supporter. Il n'était peut-être pas juste de le croire capable de reconnaître son infériorité en talent et en finesse d'esprit. L'absence de ces qualités ne lui permettait pas de la sentir. Mais il devait savoir que, par la fortune et le rang, elle était fort au-dessus de lui. Il n'ignorait pas que les Woodhouse, branche cadette d'une très ancienne famille, était dans le pays depuis plusieurs générations et que les Elton n'étaient rien. La terre d'Hartfield n'était pas considérable, ce n'était qu'une espèce d'entaille dans celle de Donwell Abbey, à laquelle tout le reste d'Highbury appartenait. Mais leur fortune provenait d'un autre côté, les mettait au pair avec le propriétaire de Donwell. Et les Woodhouse jouissaient depuis longtemps de la plus haute considération dans le pays où M. Elton ne s'était établi que depuis 2 ans, pour y faire son chemin comme il pourrait. Sortant d'une famille mercantile, il n'avait d'autre recommandation que sa cure et sa conduite. Mais il s'était mis dans la tête qu'elle était amoureuse de lui. C'est certainement sur cela qu'il comptait. Et après s'être désolé pendant quelque temps sur sa propre conduite, qui avait été trop familière avec lui, et la présomption de M. Elton, Emma fut obligée, par sa propre conscience, de s'arrêter et de convenir qu'elle avait traité avec une obligeance, une complaisance et des attentions si marquées que, supposant qu'il ignorait véritablement le motif qui la faisait agir, cette conduite pouvait donner le droit à un homme aussi peu observateur et aussi peu délicat que M. Elton de penser qu'il était fort avant dans ses bonnes grâces. Si elle avait mal interprété ses véritables sentiments, elle ne devait pas s'étonner qu'aveuglée par l'intérêt, il eût aussi méconnu les siens. La première erreur et la plus fatale venait d'elle. Elle avait eu tort. C'était une folie de s'être donné tant de peine pour joindre 2 personnes qui, sans elle, n'y auraient jamais pensé. Elle avait été trop loin, elle s'était fait un jeu d'une chose très sérieuse. Elle eut honte de sa conduite et se promit bien d'éviter de pareilles fautes. « C'est moi qui ai persuadé Henriette de s'attacher à cet homme. Elle n'aurait peut-être jamais pensé à lui sans moi. » Et certainement, elle n'aurait jamais osé se flatter d'en être aimée si je ne l'avais assurée de l'affection qu'il avait pour elle. Car elle est aussi humble et aussi modeste que je croyais qu'il l'était. Oh, si je m'étais contentée de lui persuader de ne pas accepter le jeune Martin. En cela, j'avais certainement raison. C'était très bien fait. J'aurais dû m'arrêter là et laisser le reste au temps et au hasard. Je l'introduisais dans la bonne compagnie et je lui donnais par là occasion de plaire à quelque galant homme. Je ne devais rien entreprendre de plus. Mais à présent, la pauvre fille, elle aura du chagrin pendant longtemps. Je n'ai pas été véritablement son amie. Et si elle ne prend pas son malheur fortement à cœur, je ne vois personne qui lui convienne. Guillaume Cox. Oh non, je ne puis souffrir ce Guillaume Cox. C'est un impertinent petit procureur. Elle s'arrêta, rougit, et se mit à rire d'être retombée si promptement. Ses idées se tournent sur un sujet plus sérieux. Elle pensa à ce qui était arrivé, au point où en était la chose, et aux suites qu'elle aurait. Ses réflexions ne furent pas couleur de rose. Il fallait annoncer cette terrible nouvelle à Henriette, entendre les plaintes qu'elle faisait, et la voir souffrir. Venait ensuite la considération des entrevues futures, décider si on les continuerait, oui ou non, le moyen de surmonter ses sensations, de cacher son ressentiment et d'éviter l'éclat de tout cela pendant longtemps. Enfin, elle se mit au lit sans avoir rien arrêté, excepté qu'elle avait commis une énorme faute. La jeunesse et la gaieté naturelle d'Emma ne manquèrent pas à son réveil de la rendre à elle-même, quoique la veille, avant de se coucher, elle fût très affligée. La fraîcheur du matin a de l'analogie avec la jeunesse, et lorsqu'un accident n'est pas assez grave pour nous empêcher de dormir, il est certain qu'à notre réveil, nos peines s'adoucissent et notre espoir revient. Emma se leva, plus disposée à se consoler qu'elle ne l'était la veille, et crut que l'affaire tournerait mieux qu'elle n'avait osé l'espérer. C'était pour elle une grande consolation que M. Elton ne peut être assez amoureux d'elle, et qu'il ne fût pas assez aimable pour qu'elle eût aucun regret de voir ses espérances déçues. Elle en goûtait une autre, c'est que les sensations d'Henriette n'étaient pas d'une nature à jeter de profondes racines, et que, d'ailleurs, personne autre que les 3 parties principales, n'ayant aucune connaissance de ce qui était arrivé, son père n'en pourrait être affecté. Ses pensées la réjouirent, et la vue d'une grande quantité de neige qui couvrait la terre lui fut aussi très agréable. car tout ce qui pouvait empêcher les trois personnages en question de se trouver ensemble ne pouvait que lui plaire pour le présent. Elle fut enchantée que le temps, quoique ce fût le jour de Noël, l'empêchât d'aller à l'église. M. Woodhouse aurait jeté les hauts cris si elle avait essayé de s'y rendre, par conséquent, elle était hors de danger d'exciter des idées désagréables ou d'en recevoir. La terre couverte de neige, l'atmosphère variable entre la glace et le dégel, espèce de temps peu favorable à faire de l'exercice, la pluie ou la neige tous les matins, et le soir la gelée, la retinrent prisonnière pendant plusieurs jours. Elle ne put correspondre avec Henriette que par écrit. Point d'église le dimanche, et elle n'avait pas besoin de chercher à excuser l'absence de M. Elton. Il faisait un temps qui permettait à tout le monde de garder la maison, et, quoi qu'elle crût, qu'elle espérât même qu'il s'amusait chez quelques-uns de ses voisins, il était très plaisant pour elle de voir son père persuadé qu'il était seul, renfermé chez lui, et trop prudent pour sortir, et de lui entendre dire à M. Knightley qu'aucun temps n'empêchait de venir à Hartfield. « Ah, M. Knightley, pourquoi ne restez-vous pas chez vous, comme ce pauvre M. Elton ?» Ses jours de réclusion auraient été fort agréables sans l'inquiétude particulière qui ne la quittait pas. Cette vie retirée convenait beaucoup à son frère, dont les sensations étaient toujours fort importantes à la compagnie. D'ailleurs, il s'était tellement défait de sa mauvaise humeur à Randalls qu'il fut, on ne peut pas plus aimable pendant le reste de son séjour à Hartfield. Il fut agréable et obligeant et parla bien de tout le monde. Néanmoins, malgré la satisfaction présente qu'elle éprouvait, malgré ses espérances et le bienfait du délai qui lui était accordé, l'explication qu'elle devait avoir avec Henriette ne lui permettait pas d'être parfaitement à son aise. Monsieur et Madame Knightley ne restèrent guère plus longtemps à Hartfield. Bientôt, le temps s'améliora de manière à permettre de voyager. M. Woodhouse essaya, suivant sa coutume, de persuader à sa fille de rester avec ses enfants, mais ce fut en vain. Ils partirent et il se lamenta de nouveau sur la destinée de la pauvre Isabelle. Et cette pauvre Isabelle, qui passait sa vie avec les personnes qu'elle aimait à l'adoration, dont elle admirait le mérite, n'apercevant jamais aucun de leurs défauts et toujours occupée à faire du bien, était néanmoins le modèle des femmes heureuses. Le soir du jour de leur départ, on apporta à M. Woodhouse un billet de M. Elton. Ce billet était long, poli, cérémonieux même, et disait, en commençant par les salutations ordinaires, qu'il se proposait de quitter Highbury le lendemain matin pour se rendre à Bath, où, d'après les prières de plusieurs de ses amis, il comptait passer quelques semaines. Il regrettait infiniment, tant à cause du temps que de ses affaires, de ne pouvoir venir prendre congé de lui, qu'il conserverait toujours un agréable souvenir des civilités dont il avait bien voulu le combler, et que, si M. Woodhouse avait des ordres à lui donner, il se trouverait très heureux de les exécuter. Emma fut très agréablement surprise. L'absence de M. Elton était tout ce qu'elle désirait. Elle lui sut bon gré d'y avoir songé. Cependant, elle trouva mauvais qu'il en eût donné avis de la manière dont il l'avait fait. Il était impossible d'exprimer son ressentiment d'une façon plus claire qu'en faisant des civilités à son père, sans faire la moindre mention d'elle, pas même en tête du billet. Il y avait un changement si marqué dans sa conduite, une solennité si peu judicieuse dans cette manière de prendre congé et de ses remerciements, qu'Emma crut que son père aurait quelques soupçons. Il n'en eut point. Son père fut extrêmement surpris de la soudaine résolution qu'avait prise M. Elton d'entreprendre un voyage. Il craignit pour sa sûreté. Du reste, il trouva le billet bien écrit. Il leur fut fort utile, car il fournit matière à discourir pendant le reste de leur soirée solitaire. M. Woodhouse parla encore de ses alarmes pour les voyageurs, et Emma, assez satisfaite, essaya de les dissiper avec sa promptitude ordinaire. Elle résolut alors de ne plus rien cacher à Henriette. Elle avait lieu de croire qu'elle était presque rétablie de son indisposition, et il était à désirer qu'elle eût autant de temps que possible pour se remettre de l'autre avant le retour de M. Elton. En conséquence, elle se rendit le lendemain chez Mme Goddard pour se soumettre à cette dure pénitence. Elle avait à détruire des espérances qu'elle avait pris un soin extrême d'encourager, à paraître sous l'odieux caractère d'une rivale préférée, et à reconnaître qu'elle s'était grossièrement trompée dans toutes ses idées, ses observations et ses prophéties pendant les 6 dernières semaines qui venaient de s'écouler. Cette confession renouvela la honte qu'elle avait sentie, et, à la vue des pleurs d'Henriette, elle pensa qu'elle ne pourrait jamais se les pardonner. Henriette écouta avec patience le récit d'Emma. Elle ne blâma personne, elle montra une candeur et une humilité qui charmèrent son amie. Emma était portée à rendre toute la justice possible à sa modestie et à son ingénuité, et Henriette lui parut dans ce moment posséder à un degré éminent tout ce qu'il y a dans le monde de plus aimable et de plus attachant. Henriette ne croyait pas avoir sujet de se plaindre. L'affection d'un homme comme M. Elton était au-dessus de son mérite. Jamais elle n'aurait pu s'en rendre digne, et personne, excepté une amie aussi tendre et aussi partiale que Mlle Woodhouse, n'eût cru à la possibilité de cette affection. Elle pleura amèrement, mais son affliction était si naturelle que si elle y eût mis plus de dignité, elle n'eût pas paru plus respectable aux yeux d'Emma. Elle l'écoutait avec sensibilité et employait tous les moyens possibles pour la consoler. Elle était convaincue que, dans ce moment présent, Henriette lui était supérieure et que, de lui ressembler, ferait plus pour son bien-être et son bonheur que tout ce que l'intelligence ou le génie pourrait faire. Il était un peu tard pour apprendre à devenir simple et ignorante, mais elle l'acquitta dans la ferme résolution d'être humble et discrète et de ne plus s'abandonner à la vivacité de son imagination. Son second devoir maintenant, et qui ne le cédait qu'à ce qu'elle devait à son père, était de procurer à Henriette tout le bonheur possible et de lui prouver son amitié d'une manière plus solide qu'elle ne l'avait fait en essayant de la marier. Elle la prit avec elle à Hartfield, la combla de caresses et d'attentions, s'efforça, avec le secours de livres choisis et de la conversation, de chasser M. Elton de son cœur. Elle savait que le temps seul pouvait la guérir complètement. Elle ne se croyait pas juge compétent sur une pareille matière, en général, ni en état de sympathiser avec un attachement qui avait M. Elton pour objet. Mais il lui paraissait raisonnable qu'à l'âge d'Henriette, sans la moindre espérance d'être payée de retour, elle pourrait faire assez de progrès vers sa guérison avant le retour de M. Elton pour jouir d'une tranquillité d'esprit qui lui permettrait de le voir comme une ancienne connaissance, sans courir les risques de sentir revivre ses sentiments pour lui ou les augmenter. Henriette le croyait parfait et soutenait que personne ne l'égalait en beauté ni en bonté, ce qui prouvait à Emma qu'elle avait beaucoup plus d'affection pour lui qu'elle ne se l'était imaginée. Malgré cela, il lui paraissait si naturel et si nécessaire qu'elle essaya de se délivrer d'une passion à laquelle l'objet aimé ne répondait pas, qu'elle espéra la voir s'amortir graduellement au lieu de prendre de nouvelles forces. Si M. Elton, à son retour, montrait son indifférence d'une manière évidente et marquée, ce dont elle ne doutait nullement, il était impossible qu'Henriette persistât à faire son bonheur de le voir ou de se souvenir de lui. Il était malheureux pour eux trois d'être fixés dans le même lieu sans qu'il leur fût permis de le quitter ou de cesser de se voir en changeant de société. Ils étaient donc forcés de se rencontrer. Ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de sauver les apparences. Chez Mme Godin, un autre danger l'attendait. Ses compagnes parlaient sur un autre ton. M. Elton était l'objet de l'admiration de toutes les sous-gouvernantes et de toutes les grandes filles de la pension. Et ce n'était qu'à Hartfield qu'elle en entendait parler avec froideur. Ce n'était donc que dans ce lieu où elle avait reçu sa blessure qu'elle pouvait trouver sa guérison. Et Emma sentait qu'elle ne recouvrerait jamais la paix de l'âme jusqu'à ce que son amie n'ait fait de grands progrès vers cette guérison.